Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs.
Hey, you talking to me?
Vers l'infini et au-delà!
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Qui filme. Après une pause bien méritée, on se retrouve aujourd'hui autour de la thématique des films avec autour de moi, autour de cette table, la fine équipe de contributeurs du site. Salut Altelzeda.
Salut.
Salut Juke.
Salut.
Salut Docteur Madgeek.
Salut.
Et salut Chlin. Tour de table très rapide, on parle de films ce soir. Qu'est-ce que vous avez vu au cinéma récemment, ou peut-être pas au cinéma, mais en tout cas dans le format film?
Bah allez, j'ouvre le bal. Donc ces derniers temps, bah, j'ai regardé pas mal de choses, mais alors très rapidement, j'ai regardé, pour partir du plus vieux, j'ai regardé Joker. Excellent, foncé, photographie magnifique. Autre style, j'ai regardé Bienvenue à Zombieland. Je ne sais pas s'il y a besoin de le présenter. Donc c'est le premier deux.
Ouais, ouais. Retour à Zombieland.
Pas retour, bienvenue. C'est original. Allez-y si vous voulez.
Ouais, très bien comme film.
Ad Astra, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Le Roi Lion, version 2019, en image de synthèse. Le vieux reste meilleur. Les images sont magnifiques. Et D'abord, ils ont tué mon père. Un film d'Angelina Jolie sur la guerre au Cambodge. C'est difficile, film de guerre, mais ça sort des sentiers battus. Ça peut être vu.
Ok, merci. Programme chargé, du coup.
Ouais, moi, en ce moment, je suis à fond film.
Juke ?
Et moi, dernièrement, j'ai vu, du coup, Jeanne, le film qui a eu le prix Un Certain Regard à Cannes, voilà, que j'ai détesté.
J'ai cru voir passer ta chronique, effectivement.
Ben ouais, je comprends qu'on puisse aimer, mais là, pour le coup, moi, ça verse dans le nanar. J'ai vu Retour à Zombieland, du coup, qui est sorti il y a peu de temps. Que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien ces films là je trouve ça pas idiot et totalement décomplexé et simple, donc moi j'aime bien. J'ai vu I Am Mother qui prend un thème classique de la SF avec les clowns, mais que j'ai trouvé trop long. L'idée était bien, c'est bien amené, c'est bien filmé, mais c'est trop long. Et j'ai vu Star Wars 9, mais du coup dont je vais parler là dans la chronique.
Effectivement, on va en reparler. Docteur McGeek, qu'est-ce que tu as regardé?
Eh bien, moi, j'ai vu après tous les films que propose Netflix.
Ah, ok.
Dernièrement. Mais au cinéma, je suis allé voir 1917.
Ah.
Que je conseille pour tous les fans de cinéma. Techniquement, c'est absolument à voir. J'ai vu The Aeronaut, qu'on voit sur les plateformes là, en ce moment.
Sur Amazon.
Sur Amazon, ouais, exactement.
Cool, un film Amazon.
Et c'est somptueux, donc c'est un peu historique, l'histoire des premiers travaux météorologiques dans les ballons.
Aussi, ouais.
Et des images qu'on n'a jamais vues.
Mais t'en parles plus tard.
Ailleurs, non, une autre fois,
ah bon.
Sur le site. J'ai vu Joker, moi je fais partie de ceux qui ont adoré. J'ai vu Ad Astra, c'est un peu trop long, je suis d'accord avec
Atel Zeda.
Et je recommande L'enfant qui dompta le vent sur Netflix aussi. Une petite production avec un petit caméo, mais surtout une histoire vraie, complètement hallucinante.
Ok, Chenin.
Alors, rien de très original non plus de mon côté. j'ai vu Star Wars 9 également. J'ai fait un petit effort pour ne pas m'endormir pendant le film. J'ai vu pendant ces derniers mois deux films de zombies, donc également Retour à Zombieland, qui m'a beaucoup fait rire. J'adore la distribution et l'humour de ce film. J'ai vu également, dans un genre très différent, The Dead Don't Die, dernier film de Jim Jarmusch.
Ouais,
bon, ça fait un petit moment qu'il est sorti.
J'ai pas accroché.
Alors, moi j'ai accroché parce que j'aime Jarmusch, donc c'est-à-dire que c'est du Jarmusch. Bon, il fait juste l'essai de faire du film de zombies, mais il se passe rien. Et il y a des dialogues et de la musique assez
savoureuse. Ouais, j'étais fan du casting et j'arrive pas à me décider à le regarder parce que la bande-annonce m'a refroidi.
Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un point commun entre les deux, c'est Bill Murray.
Ouais.
C'est méta quand même. C'est un autre point intéressant du truc.
Ensuite, j'ai vu Marriage Story, je pense qu'on va en parler pendant la chronique. Un film produit, je crois, par Netflix. Et familial, Jumanji 2. Et puis, juste avant les fêtes de Noël, on s'est fait un vieux classique, La vie est belle de Capra.
Ok.
Jumanji 2, c'est sorti.
C'est Jumanji 2, mais le il reboot paraît, ouais. Du premier. C'est le 2 du
la
reboot.
Suite,
quoi.
Du...
Ouais, c'est la suite du reboot.
Ouais.
Ça devient compliqué.
J'adore.
C'est méta aussi.
C'est le 3, en fait, si tu veux.
Ok, merci pour ce tour de table du coup de toutes les petites productions ou grosses productions que vous avez vues ces derniers temps. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet avec peut-être le plus gros blockbuster de la fin 2019, début 2020. J'ai nommé Star Wars 9 et avec toi, Juke, du coup.
Ouais, j'ai peut-être pas besoin de vous faire un gros retour sur...
Qu'est-ce que c'est Star Wars ?
Sur ce qui se passe dans le film, je peux dire rapidement que du coup c'est la fin de la troisième trilogie, on arrive au 9, on a les réponses aux questions sur ce qui se passe pour Rey, pour Kylo Ren, pour tout ça. On a des personnages qui reviennent, il va peut-être y avoir quelques petits spoilers là, surtout à mon avis dans la discussion qu'il y aura derrière.
Non, Veto, je ne l'ai pas vu encore.
Exercice de style alors.
Est-ce que tu sais qu'il y a un personnage de la trilogie originelle qui revient?
Alors tu remplaces des mots par d'autres.
Je ne sais rien.
Je ne sais rien et j'oublie
tout. Sauf sur Blue Spoil, je vais pas oublier.
Tu n'as vu aucune bande annonce?
Non.
Ah ok. On peut vraiment pas dire grand chose.
C'est vraiment. Moi, du coup, le spoil est vraiment, c'est vraiment un secret de polichinelle parce que tout le monde en a parlé qu'il y avait un personnage important de la première trilogie qui revenait. Là-bas, tu tireras dehors. Voilà, que j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de vider mon sac là-dessus. Mais non. Mais et du coup ouais, je l'ai critiqué sur Kifim.
Je peux même pas aller dehors quand je vais monter le podcast,
bien
je vais l'écouter.
Effectivement, c'est l'inconvénient d'être le monteur sur le podcast.
Donc j'ai critiqué ce film sur Kifim, mais je sais que Glenn m'attend au tournant, mais en fait j'ai bien aimé le film. C'est un très bon film. J'ai trouvé que la photo était magnifique, les décors depuis que ça a été repris par Disney. Il y a de gros efforts de fait, vraiment. Il y a une vraie patte, il y a une vraie direction artistique. Les acteurs sont bons. Enfin, je commence à être vraiment fan de Adam Driver, pas seulement pour Star Wars, pour aussi plein d'autres films qu'il a fait. Il y a plein de choses de bien. Le problème que j'ai avec Star Wars 9, c'est le même problème que j'ai avec les autres films de cette trilogie, c'est l'utilisation qui est faite de la force. Voilà, le problème, c'est que on est quand même d'accord que dans les premiers films, dans les premières trilogies, Luke Skywalker avait du mal à soulever un X-Wing, Yoda avait du mal à soulever dans la trilogie 1, 2, 3, il avait du mal à bloquer un élément du décor à lui tout seul. Là, dans Star Wars 9, avec la force, on arrive à soulever quand même des armadas entières de vaisseaux, quoi. Du coup, la force devient un peu un espèce de Deus Ex Machina qui vient solutionner les problèmes de scénario, qui vient apporter des trucs... Et moi, je suis pas fan de ça. Je comprends qu'on puisse aimer, mais moi, je trouve que l'orientation qu'ils ont pris avec ce qu'ils font de la force dans ce film, je n'aime pas du tout ça, quoi.
C'est le souci de tous les films de super-héros, je trouve, actuels.
C'est ça, en fait.
Tous les Marvel et compagnie, ils tombent là-dedans, quoi.
Si on digresse même, c'est même ça le problème, c'est qu'à l'origine, la force, c'est pas un truc de super-héros. La force, c'est plutôt une espèce de religion teintée de magie. C'est pas de la magie... qu'on met à toutes les sauces et avec laquelle on fait tout ce qu'on veut, quoi. C'est pas pour rien que Luke Skywalker, dans les premières trilogies, il a du mal à soulever un X-Wing. C'est que la force, ça permet pas de tout faire, quoi. C'est plutôt l'aspect religieux qui est développé dans les premières trilogies. Et là, maintenant, dans les derniers films, l'aspect religieux est complètement passé à l'as. La force, c'est de la magie, on fait ce qu'on veut avec. On ressuscite des gens, on soulève des vaisseaux entiers, enfin des vaisseaux, pas juste des vaisseaux, quoi, carrément, des croiseurs entiers, avec des dizaines de croiseurs partout, on les soulève avec la force, on fait ce qu'on veut. Et moi, j'aime pas ce virage-là du tout.
Je vais me faire l'avocat du diable, mais du coup, tu as dit au début que tu avais apprécié le film pour l'objet, on va dire, et puis les acteurs, etc. Est-ce que ce que tu soulèves, c'est pas, entre guillemets, un problème de fan? Et que la génération actuelle qui va découvrir cette trilogie...
Ça peut l'être, mais moi, du coup, j'ai un problème de cohérence aussi, quoi.
Voilà, ouais, okay.
Parce que Luke Skywalker et Yoda sont quand même censés être des Jedi qui sont ultra puissants. Et si on compare avec Star Wars 9, ils n'ont pas le dixième du quart de personnage qui, justement, revient, du pouvoir qu'il a, quoi. Alors qu'ils sont censés être des Jedi... très puissant. Donc il y a quand même un espèce de problème de cohérence sur le scénario. Et moi, c'est ça qui me pose problème.
Et du coup, en tant que... Parce que c'est aussi comme ça que le film se vend, en tant que conclusion générale de la saga...
Tout ça est très bien. Moi, j'ai juste un problème avec la force. Pour tout le reste, c'est très bien. C'était hyper compliqué de sortir les anciens personnages pour introduire les nouveaux et qu'ils puissent prendre la suite derrière pour les prochains films. C'est plutôt bien fait. Ça pourrait être mieux, mais faut commencer à être un peu chiant, mais vraiment, c'est pas si mal fait. Le scénario du film n'est pas si mal. Je leur dis, les images, les décors, les persos... Non, c'est vraiment pas mal. J'ai juste un problème avec cet aspect de la force.
Ok. Bon, on le savait en préparant cette émission, l'idée aussi
de parler
de Star Wars 9, c'est d'en débattre un petit peu, et je crois que du coup, Dr. McGeek a un avis un petit peu différent.
Ouais, alors je...
Complémentaire en tout cas, et Schnin me fait signe qu'il a aussi un mot à dire.
Alors, en total respect hein, de l'avis, je pense que d'abord, donc pour répondre hein, point par point, je pense que la religion, le côté religieux de Star Wars, c'est une interprétation de l'histoire.
Oh, ça a été admis par George Lucas quand même.
Laissez-moi parler. moi, je crois que en fait, la saga, elle conclut sur ce que le narrateur voulait raconter depuis le départ, c'est-à-dire que la force, c'est pas une magie, la force, elle est partout, c'est quelque chose d'organique, de biologique, de physique en fait. Et que ce qu'il essaie de dire, c'est, et qu'il parvient à nous dire d'ailleurs dans ce dernier épisode, c'est que t'as pas besoin d'être un Jedi pour utiliser la force. Et c'est parce qu'elle est physique et biologique et qu'elle traverse tout qu'elle peut ramener à la vie, qu'elle peut soulever des vaisseaux. Et si Luke Skywalker n'y arrive pas au début, bah c'est parce que sa formation n'est pas terminée en fait. Donc moi je trouve que tout ça, ça se tient très très bien. Et on savait que ce qu'il essayait de dire depuis le début, c'est que la force, tu la maîtrises, tu t'en sers, elle fait partie de toi. Et que comme elle constitue tout l'univers, sa force, elle est infinie.
Alors, juste pour te répondre sur ce point, ok, d'accord. Le seul problème, c'est qu'à un niveau de formation, Jedi, sur la force, etc., équivalent entre Luke Skywalker et Rey, Luke Skywalker n'arrive pas à soulever un X-Wing, Rey soulève une quasi-montagne de rochers. Il y a quand même un souci de cohérence dans tout ça. Quoi. Moi, je veux bien qu'on fasse évoluer la force, tout ça, mais il y a un souci de cohérence.
Bah, peut-être qu'ils s'en servent différemment.
Enfin, dans l'histoire, est-ce que Rey, elle est de la famille de l'Empereur ? Et ce ne sont pas des Jedi.
Et mais... tout le monde n'arrête pas de dire que Luke Skywalker, la force est très puissante. La force est très puissante chez lui. Quoi.
Oui, non, mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y aura pas une encore plus puissante. Ils sont bien obligés de faire monter aussi la mayonnaise. Quoi.
Ouais,
après, Luke, il arrive à se téléporter. Enfin, je veux dire, il arrive à faire une projection astrale, truc machin, ce qu'on a déjà vu. Hein, donc ça,
dans la dernière trilogie.
Ouais, mais les autres l'ont fait avant. Les apparitions de fantômes, c'est ni plus ni moins que ça. Donc voilà, chacun se sert de la force comme il veut. Alors, en tout cas, voilà.
Sans rentrer, mais ça s'entend. Ça s'entend. Dans,
forcément, ça s'entend. C'est choquant pendant le film. Voilà. Et il a raison de le souligner. C'est choquant pendant le film.
Ok. Et pour revenir, du coup, je suis extrêmement fan de Star Wars, donc on pourrait en discuter des heures. Et j'adorerais ça. Mais pour en revenir peut-être à l'objet film en lui-même, toi, du coup, t'aurais
plutôt
un conseil positif à donner.
Je trouve que Disney fait un super travail. Je trouve qu'il se moque pas des fans. Moi, j'adore le côté fan service. On en reparlera tout à l'heure sur le Mandalorian. Moi, je suis parti de la première trilogie, donc j'entends, ça fait écho en moi le fan service. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que Disney fait un super travail aujourd'hui, parce que si j'étais la personne que j'étais il y a 20 ans et qui a découvert Star Wars à ce moment-là, et que là je découvrais ce qu'ils sont en train de faire, je serais claqué de la même façon en fait. Donc, mais tellement, parce que en plus, dans chaque épisode, notamment dans celui-là, ils font du fanservice, ils font des clins d'œil, ils te rappellent des trucs. Mmh. Ils arrivent même aujourd'hui à être tellement malins qu'ils arrivent à passer le truc de faire du cel-shading, de la 3D, des trucs de maboule, pour revenir parfois à... Tu sais qu'ils ont fait des vraies petites maquettes, des vrais petits trucs, parce que ça fait partie du décor.
C'est en effet super bien qu'il l'ait fait, mais il savait aussi attendre au tournant. Parce que George Lucas, quand il a fait 1, 2, 3, il s'est fait défoncer par tout le monde parce que la 3D était dégueulasse, que c'était plutôt moche. Et du coup, J.J. Abrams, quand il a fait le premier, il savait très bien qu'il fallait des costumes, il fallait des maquettes. Et très bien, il l'a fait et c'est super bien, quoi, vraiment.
Mais j'ai aussi été, pour répondre à ta question, j'étais halluciné par... des scènes, par exemple, un décollage de quelques rebelles à travers les arbres parce qu'ils sont planqués sur une planète végétale. Je me suis dit, non mais, t'es dedans, quoi. Je vois pas où peut être la manipulation, presque tellement c'était... Ouais, je suis fan. Ouais.
Ok. Tel Zeda, Schnin, peut-être un mot pour conclure sur Star Wars 9.
Je vais pas parler de ce que vous avez déjà dit sur l'histoire.
Une précision. Dans les épisodes précédents, Schnin a déjà dit qu'il n'aimait pas les Star Wars en général.
C'est vrai.
Donc maintenant,
je
mets le contexte, nous t'écoutons.
Je suis pas fan, non, et je suis pas non plus fan de ce que fait Disney. Je trouve qu'ils ont tendance à toujours aseptiser tout ce qu'ils peuvent, et ils le font de plus en plus. Et en plus, leur seul intérêt, c'est de vendre des objets derrière. Et là, mes enfants m'entraînent à aller le voir, ils adorent, ils peuvent regarder les vieux ou les récents X fois, ils se lassent pas. J'avoue qu'il y en a, je peux passer un bon moment quand même, hein. Mais si on s'intéresse à la partie artistique du film, moi, le décor, ça me laisse froid. Je me dis, si on enlève les effets spéciaux, il ne reste plus grand-chose. La mise en scène, il n'y a pas grand-chose. Les dialogues, Il n'y a plus d'humour, il n'y a plus ce qu'il y avait avant, il n'y a plus Han Solo. C'était lui qui mettait l'humour dans la série, là il n'est plus là. L'actrice qui fait Rey, je la trouve vraiment fade, elle a toujours la même expression au visage. Le seul qui rattrape le truc, c'est justement...
Kylo Ren, Adam Driver.
Ouais, Adam Driver, je le trouve excellent.
Repo est pas mal aussi.
Tu parles de la cohérence par rapport à la force. Moi, même la cohérence parfois de l'histoire, dans les détails des dialogues, on a par moments, on en a reparlé en famille après, c'était à mourir de rire presque. Ils disent ce qu'ils sont en train de faire. Dans le film, il y a des moments où ils disent « je vais faire ça ». Et en fait, si tu réfléchis bien, tu dis « mais alors le méchant, il est en train de dire au gentil, parce que c'est quand même assez manichéen, ce qu'il va faire pour gagner ». Donc le gentil, il va dire « c'est bon, j'ai tout compris, donc je vais te mettre des bâtons dans les roues ».
C'est le cas de trois quarts des films d'action, oui. De trucs où les méchants expliquent ce qu'ils vont faire.
C'est vraiment, vraiment, trop, vraiment
c'est pas plus poussé qu'ailleurs. Non, tu l'as pris comme ça, mais c'est pas plus poussé, Guillaume a raison, c'est pas plus poussé que dans d'autres films un peu dans ce style-là. Mmh.
Bah là, ça nous a un peu fait rire en tout cas.
Alors moi, pour conclure, j'ai deux questions.
Oui. Rapidement.
Ouais, très très rapide. Une pour Julien. T'as dit « la photo est magnifique ». Sur une échelle de 0 à Joker...
Ah, c'est différent.
C'est différent, ouais, carrément.
C'est différent parce que donc oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai vu aussi Joker. Star Wars 9, c'est quand même un film basé sur les effets spéciaux. Il y a énormément d'effets spéciaux dans Star Wars. Faut, à mon avis, un mec très fort en photo pour que ça ressemble pas trop à des effets spéciaux et que ça ait de la cohérence et que ça soit chouette et que ça fasse des décors et que t'aies pas l'impression.
C'est pas plutôt de la scénographie que de la photo.
Je sais pas, non, je pense, enfin, peut-être que je mets trop de choses dans la photo, mais ouais, je pense que. Alors que Joker, c'est clairement, je l'ai vu comme toi et on a aimé la même chose tous les deux là-dessus. Joker, le mec qui a fait la photo, c'est un photographe.
Ouais, ouais, alors attends, non, Joker, attends, excuse-moi, mais il y a quand même vachement de fond vert. Hein,
le
Gotham.
Le mec qui a fait la photo de Joker, il a à son actif une liste de navets longue comme mon bras.
C'est vrai?
Ah ouais, en gros, les seuls bons films qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé avec Zach Braff, donc. Il a fait Garden State et...
Peut-être que c'est le mariage de ce mec qui fait la photo. Peut-être que c'est le mariage de ce mec qui fait la photo et du réalisateur de Joker. Mais oui, en effet, Joker, il y a des je sais pas combien, des dizaines de scènes du film que je voudrais dans des cadres...
Le rôle de ma vie, c'était le deuxième acte brave qu'il a fait. Mais sinon, ouais, plutôt inconnu au bataillon, quoi. Et j'avais une dernière question qui était pour vous tous. À quand un podcast spécial Star Wars? Alors si vous pouvez parler pendant des heures...
Hein, on peut.
Ça...
Je pense que dans tous les
cas,
on pourrait aussi inviter
on va
à aller,
si, je
vous allez pas mal
écouter d'autres qui l'ont déjà fait, quoi. Parce que,
ouais, alors déjà, il y a plein de podcasts qui font, mais je pense que dans toutes les catégories du site Kifim, on pourrait recommander des choses et parler de choses en rapport avec Star Wars, parce que effectivement, la richesse
spéciale Star Wars,
la force dans les films qui ne sont pas Star Wars,
ça pourrait être intéressant. Bon, on l'aura compris, du coup, Star Wars 9, forcément, ça crée un peu le débat, en tout cas, pour un film qui est censé conclure une saga. Je vous invite à retrouver, du coup, tous ces avis sur Kifim, et puis à venir aussi partager le vôtre. On va continuer avec Chenin. Tu veux nous parler, du coup, d'un film dont on retrouve un acteur de Star Wars 9, puisqu'on en a parlé à beaucoup d'occasions, Adam Driver, mais alors, pour le coup, dans un rôle diamétralement opposé. Ouais. Ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu.
Moi, je vais faire court. Marriage Story. Il n'a pas beaucoup fait parler de lui, je pense. Enfin,
un peu
quand même, ouais.
Si,
mais pas en amont. Les films Netflix, ce n'est pas non plus des films qui ont un battage médiatique. On ne voit pas de pub de bonnes annonces. Non, je me trompe.
Ouais, ils font de la pub dans la rue, des fois.
Parfois, oui, je crois qu'ils sont vraiment en train d'essayer de miser sur, pour le coup, les films plus en plus aujourd'hui, avec des stars.
Bon, en tout cas, nous, on est tombés dessus un peu par hasard.
Mm-hmm.
Marriage Story, donc, c'est effectivement avec Adam Driver et Scarlett Johansson. Mm-hmm. Deux acteurs qu'on peut retrouver dans des films de super-héros, d'ailleurs. Et là, qui sont dans un rôle très différent. T'es pas d'accord?
Non, mais du coup, c'est ça.
Mais je parle pas de Star Wars.
Mais c'est des...
Mais non, mais alors, je parle d'Avengers.
Adam Driver dans un film de super-héros?
Ah oui, pardon, excuse-moi.
Non, mais en fait, c'est rigolo, du coup, le lapsus. Mais ne revenons pas sur Star Wars, donc.
Bon, on va dire des blockbusters, alors.
Exactement.
Alors, My Story n'a pas...
Bon, des fois que je serai pas ça.
My Story n'a pas été fait pour être un blockbuster, je pense. On va dire que ça se range plutôt dans les mélodrames. C'est une comédie mélodramatique. Ça commence avec beaucoup, beaucoup de poésie. C'est très calme, ça démarre doucement. Et puis ça vire assez vite à un léger pathos autour de la séparation de gens qui... On se demande finalement pourquoi ils se séparent.
Carrément pathos, quoi. C'est vraiment, c'est un drame ce film.
C'est un drame, oui, c'est oui. Ce que je dis, hein. C'est mélodramatique. Je dis pas que.
Tu dis un peu comme une comédie un peu mélodramatique. Et du
bah,
coup,
c'est plus mélodrame que comédie. Enfin, mais c'est pas non plus fait pour te niquer le moral.
Enfin, oui, non, d'accord.
Bon, alors, moi je trouvais le film assez agréable. Je pense qu'il y en a. Pedro n'est pas là pour en parler, mais il a peut-être plus aimé que moi. C'est à regarder, c'est vraiment intéressant. C'est bien réalisé, c'est bien joué. Après, bon, il y a quelques longueurs, ça tire vers le Kramer contre Kramer, c'est ce que tu disais, Julien, l'autre jour, et je suis assez d'accord.
C'est ce que j'ai mis dans ma critique, c'est qu'en fait, le film souffre de ça, quoi. C'est que c'est exactement le film Kramer
alors,
contre Kramer.
Pas entièrement, parce que Kramer contre Kramer.
C'est l'histoire d'un divorce avec un enfant au milieu, et pendant tout le film, tu regardes le film en le comparant à Kramer contre Kramer, quoi. C'est ce qui lui pose problème, je pense, à ce film.
Alors, je suis pas d'accord, parce que Kramer contre Kramer est beaucoup plus axé sur le procès, alors que là, finalement, il s'en écarte assez vite. Ça parle un petit peu de justement effectivement la partie avocat, comment on peut se faire s'entraîner dans le désaccord, la dispute, problème d'argent, etc. Il y a vraiment un côté réaliste assez intéressant. Bon, c'est pas le film de l'année. Il y a Adam Driver, en tout cas, encore une fois, il est excellent, et il y a un passage où on a presque l'impression qu'il improvise, se met à chanter de manière assez naturelle sur ce qui lui arrive. En même temps, bon, il est comédien dans l'histoire, hein, il est monteur en scène et comédien, et donc ça rentre dans le personnage de faire ce qu'il est en train de faire. C'est quelque chose que j'ai trouvé magique. Il sort du film.
Là, à l'instant, je viens de le critiquer, mais moi j'ai trouvé que c'était un très bon film, et qu'en effet, les acteurs sont très bons. La réalisation, je l'ai trouvé bonne, mais je ne l'ai pas trouvé exceptionnelle. Mais le film vaut pour la performance d'acteur d'Adam Driver et de Scarlett Johansson. Mais après, c'est ce que j'ai mis dans ma critique sur Kifilm, c'est que... Bah ouais, moi pendant tout le film je me disais mais attends, dans Kramer contre Kramer comment ça se passait, donc j'ai comparé, c'est ce qui m'a fait redescendre le film un peu, mais je lui mets quand même 7 sur Kifilm, quoi, 7 sur 10 donc,
oui, moi je suis d'accord.
Alors je vais avoir une question qui ne va peut-être rien à voir avec la choucroute, mais en même temps ça peut parfois nous sortir d'une œuvre de fiction, c'est est-ce que du coup l'enfant joue bien?
Oui.
Je savais pas qu'il y avait un enfant, je l'ai pas vu non plus.
Ah, on vient de dire qu'effectivement il y avait une histoire de divorce avec un enfant au milieu. Bon, je vous ai pensé à.
Ah non, j'ai pas dit ça. Qui a dit ça? J'ai oublié de le dire, mais tu fais bien de le dire.
Je l'ai pas inventé.
Il a des scènes qui sont pas très simples à jouer et vraiment il joue bien aussi, quoi.
Alors il en fait pas trop. C'est vrai que c'est une bonne question, parce que souvent les enfants, c'est pas toujours évident dans les séries, dans les films. Non, là, en fait, je l'avais oublié, comme quoi il était pas mauvais.
Ok, bonne conclusion. Est-ce que Dr McGee, qui a été là, un mot supplémentaire sur ma
chanson? Moi, je n'ai pas vu. Je peux parler pour.
Personnelle.
Je peux juste dire, Pedro n'a pas pu nous se joindre à nous ce soir, mais effectivement, lui, il est grand fan, grand coup de cœur, il lui a mis 9 sur 10. Donc, en tout cas, lui vous encourage à y aller.
Ok, merci du coup pour ces avis sur Marriage Story. On va enchaîner avec toi, Atlas Zeda, et avec le retour d'une chronique qu'on avait déjà faite précédemment.
Non, je crois pas.
Il me semble que si.
Je l'avais annoncé, mais je l'avais pas fait.
Ah, d'accord, tu l'avais teasé.
Ouais, avec, c'est ça, je l'avais vachement teasé. J'avais cette envie depuis quelques temps de la lancer.
Avec, du coup, une question qu'on va peut-être se poser maintenant régulièrement dans le podcast film, c'est est-ce que ça a bien vieilli?
Exactement, est-ce que ça a bien vieilli? Alors, du coup, ouais, j'ai eu cette envie, idée, là, d'aller explorer des films. Alors, est-ce que ça a bien vieilli? Je vais pas taper dans les... vieux films, mais on va dire dans les films de notre adolescence à nous, on va dire génération autour de la table, on a tous, on va dire être un peu large, entre 30 et 40, 45 ans en gros, hein. Donc je vais aller taper un peu des films qui sont sortis dans les années 90 ou avant, on verra.
C'est Christophe qui nous pourrit la moyenne d'âge.
Oui, un peu, bon. Alors du coup, j'ouvre le bal de cette chronique aujourd'hui avec le cinquième élément. J'ai pris quelque chose, j'imagine que tout le monde l'a vu. Donc je fais un petit rappel vite fait de ce qu'il en est. Donc c'est sorti en 97, donc ça a 22 ans. Globalement, il y a de fortes chances que ce soit plus près de votre naissance que d'aujourd'hui. Hein, ça c'est pour vous dire à quel point le film est vieux. Donc c'est un film de Luc Besson, époque bon film, avec Bruce Willis, époque bon film, et Mia Jovovich, je sais pas comment on prononce son nom, j'ai jamais réussi, Jovovich,
c'est bon.
Jovovich, c'était pas mal. Et Maïwenn, on peut la citer, et, également, qui jouait le rôle de la cantatrice. Relativement discret à l'époque, mais peut-être déjà, je vous apprends un truc. Et à noter, un truc important, une musique d'Eric Serra, parce que dans ce film, la musique est quand même primordiale. Le pitch, globalement, tous les 5000 ans, la Terre risque d'être détruite. Et donc, il y a des extraterrestres dans une époque... Enfin, on est en 2349, si je ne dis pas de bêtises, dans le film. Un truc comme ça. Donc, il y a des échanges interplanétaires. Des extraterrestres doivent emmener 5 éléments qui doivent sauver le monde, en gros. Ils vont être attaqués. Et une série d'aventures... Le cinquième élément, incarné par Mia, on va juste dire son prénom, se retrouve à être protégé par Bruce Willis. S'en suit action, rebondissement, etc. Je vous invite vraiment à le voir de toute façon. Si vous ne l'avez pas vu, ne serait-ce que pour la culture, il faut le voir. Pour répondre à la question, est-ce que ça a bien vieilli, j'ai essayé de couper ça un petit peu en plusieurs points. D'abord, le rythme du film. Franchement, c'est toujours excellent.
Ouais.
Le film dure 2h06. Alors 2h06, c'est maintenant c'est assez dans les canons des films actuels, hein. Mais back in the time, les films avaient tendance à être plus courts. Donc il aurait pu être long. Franchement, je l'ai revu pour la critique. Il aurait duré 1h30, que ça passait pareil. Quoi. Franchement, d'ailleurs, je me suis même posé la question de savoir s'il durait pas une heure et demie. Donc ça te passe très bien. Donc il y a une très bonne alternance. Dans le rythme entre action, construction de l'intrigue et surtout une petite présence d'humour dans le film qui marche bien sur tout le long. Et c'est relativement subtil et ça reste dans le temps. Enfin, je pense que maintenant on se rappelle comme tous de Lilou Dallas, Multipass. C'est des petits mimiques comme ça qui sont restés quand même dans le truc. Donc ça marche bien, toujours ça. C'est honnêtement, c'est un poil niais.
Oui, c'est un peu l'humour Taxi 5 parfois.
Ouais,
un peu. Voilà. Oh, t'es méchant, Taxi 2. Ouais. Donc, c'est du Besson. Donc, mais ça marche bien. Enfin, franchement, tu le regardes, tu passes un bon moment, pas de problème, quoi. Au niveau de l'univers du film, franchement, j'ai trouvé que c'était hyper d'actualité. Enfin, c'est hyper d'actualité. Je veux dire, on n'est pas gêné, c'est hyper coloré. Alors, c'est une vision du futur qui a déjà quelques années. Mais franchement, c'est bon. Il faut savoir que c'est des univers qui ont été notamment dessinés avec Moebius et avec Jean-Claude Mézières, qui est le dessinateur de Valérian, que Luc Besson réalisera quelques années plus tard. Donc
et des costumes de Jean-Paul Gaultier.
Et des costumes de Jean-Paul Gaultier, exactement. Donc on est dans un univers qui est super sympa. Donc franchement, c'est intéressant de le revoir aussi pour cet aspect-là. Alors forcément, maintenant, là où le bas blesse un petit peu, c'est sur toute la partie effets spéciaux. Alors sur tout ce qui est scène d'action et compagnie, il n'y a rien à dire. Franchement, ça passe, pas trop de problèmes. Bon, alors quand ça passe, scène où on voit des ordinateurs ou des trucs comme ça, bon, c'est la claque. Hein, ça a pris... tout ressemble à des terminaux de Minitel. Globalement, bon, ça a pris un petit peu cher sur cet aspect-là. Il y a pas mal de visuels qui sont devenus... qui sont devenus, on va dire, rétro. Ils sont pas devenus ringards. Mais c'est devenu un peu rétro, quand ils regardent des écrans, bon, il y a des trucs un peu projetés, ça faisait futuriste il y a 22 ans. Maintenant c'est dépassé. Mais franchement, j'ai trouvé ça plutôt fun, en fait. Voilà, on se dit, oh, c'est rigolo et tout, ça marche. Bon, il y a des scènes, je sais pas si vous vous rappelez de la scène où ils reconstituent justement le cinquième élément, Lilou. Où sa peau est remise sur ses organes, sont remis sur les os et tout, ça a pris un coup de vieux, c'est limite pixelisé.
Ouais, depuis Westworld, quoi.
Donc, mais franchement, on crache pas dans la soupe, c'est pas forcément gênant. Moi, voilà, je dirais, c'est devenu rétro, c'est pas devenu ringard. Donc, on peut le regarder en se disant, ouais, bon, c'est fun, pas de problème, on avance, quoi. Et globalement, niveau acteur, j'ai trouvé que avec le temps, ça restait juste, il n'y a pas de gros problème. Et même, je dirais que la prestation de Mia est franchement excellente. En fait, je trouve que cette actrice, qui à cette époque-là n'était pas hyper connue, elle se démarque dans le film. Il y a quelques scènes où elle est franchement bonne. Donc, est-ce que le cinquième élément a bien vieilli? Ouais, pour moi, c'est toujours aussi bon. On va regarder deux petits trucs avec un petit pas de côté, avec un petit sourire en coin. Mais franchement, ça le fait, c'est fun, c'est rythmé. Grosse mention spéciale pour quelque chose qui a été peu égalé, en tout cas, c'est la scène qui est menée sur la prestation de la diva. Là. Donc il y a la diva qui chante, et en même temps, les scènes d'action se poursuivent avec...
Plava Laguna.
Avec... Ne me demande
pas pourquoi, je me rappelle.
Enfin, c'est sorti.
Donc elle se met à chanter et l'action suit ce chant-là. Ouais. Franchement, c'est magnifique. Enfin, c'est top, ça, c'est... Et la musique, elle a pas vieilli du tout, quoi. Enfin, ce qu'a fait Eric Serra sur ce morceau-là, c'est top. Et le film vaut le coup d'être vu pour ça, je pense, à mon avis.
Et Ruby Rhode.
Et Ruby Rhode. Donc dans tous les cas, conclusion, vous l'avez pas vu. Enfin, allez le voir, enfin, voyez-le.
Il est plutôt mal noté sur Kifim. Il a 5-5. Je sais même pas si je l'ai noté, parce que moi je suis un fan inconditionnel de ce travail là, de la DA là-dessus. J'aurais bien mis un petit 8, quoi.
Bah vas-y, mets un 10, si tu veux, t'as le droit. Donc voilà, vous l'avez pas vu, il faut le voir, pour votre culture, parce que franchement c'est bon, on n'en fait pas toujours des comme ça. Et vous l'avez déjà vu. Eh ben, franchement, ça vaut le coup de perdre une soirée et de le revoir.
Ans à la télé.
Ça a très bien vieilli, vous pouvez y aller.
Altezia sur du coup ce petit rétro d'un film, effectivement, je pense quand même d'une ambition assez incroyable pour un film français, pour ce réalisateur-là aussi.
Plus gros budget d'Europe quand il est sorti.
Depuis, il y a eu peut-être genre Mission Cléopâtre, quoi.
Moi, c'est ça que j'ai aimé dans ce film, c'est le côté opéra, quoi. C'est qu'il a fait appel aux meilleurs dans toutes les... dans tout leur métier pour créer une œuvre comme ça. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans son travail sur Valérian, quoi.
Oui, il y a une vraie filiation avec le travail d'artiste français de la bande dessinée. Ouais.
Qui a inspiré le monde entier.
Ouais, hein, voilà, c'est ça. Exactement,
Métal Hurlant. Moebius, Valérian, tous ces trucs, Lincal, tout ça.
Il y a des clins d'œil à Métal Hurlant dans le cinquième élément. Je ne peux pas te citer de tête comme ça, mais il y en a.
On a une vraie, en France, légitimité à, on va dire, revendiquer ces univers-là. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas, en fait. Mais les Américains ont vachement pillé ce travail-là, notamment chez Star Wars.
Et il y a quelques très très bonnes idées dans le cinquième élément. Quand le mec sort sa clope et que t'as 4 cinquièmes de film, et juste la fin de clope, c'est bien vu.
Mathieu Kassovitz dans un rôle incroyable.
Le cinquième élément a quand même été aussi jugé comme un pastiche un peu de Star Wars.
Ouais, mais il y a
globalement, c'est vrai qu'il y a eu cette critique là.
Globalement, maintenant que la SF fait des ronds, ce qui n'a pas toujours été le cas, tout le monde se tire un petit peu dans les pattes, quoi. C'est-à-dire toute la bande Christin Mézières, Star Wars, Lubesson, machin, tout le monde dit. Tu trouveras plein d'articles sur le net qui te montrent le nombre de similitudes que tu as entre Star Wars et Valérian. Valérian qui est sorti bien avant Star Wars. Le Faucon Millénaire, il est dedans, l'Empereur, il est dedans, le machin, il est dedans. Bah oui, mais c'est des univers. Ils s'auto-inspirent parce qu'à une époque, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait que eux, en fait.
On est bon.
Oui, et puis. Alors voilà, il y a eu une évolution, effectivement, du média et pour parler de ces univers-là. Mais effectivement, enfin. Je vous invite à rechercher sur Internet diverses productions de Rafik Djoumi qui parlent beaucoup de ce genre de relation qu'il y a eu entre le cinéma américain de divertissement et le Metal Hurlant notamment, qui est super intéressant, quoi. Mais en effet, Luc Besson est venu quand même derrière, après, reprendre les codes américains. Et d'ailleurs, son film est très clairement américano-français, quoi, même dans ses stars.
Il est 100% financé français. C'est ça, par contre, un film français. On peut dire 100% financé que par le Gaumont.
Bah, moi, si je peux faire une voix dissonante, je ne suis pas fan du tout de Besson. À tel point que maintenant, de toute façon, je refuse d'en regarder. Et le cinquième élément, je le
acte
vu,
militant.
Je le reverrai pas. Extrémiste.
Ah non, mais alors, il y a
toute la filmo de Besson.
Ah oui, tout. Ça j'ai un bouquin sur les pires nanars de l'histoire du cinéma. Il y en a 100 dedans, il y a 3 Bessons dedans. Et franchement,
tout le monde sera d'accord pour dire que les derniers Bessons sont catastrophiques.
Non,
mais
même
le Grand Bleu, Léon, Nikita, ça.
Carrément, attends, c'est Télérama qui a écrit ton bouquin.
Non, pas du tout.
Alors moi, je vous préviens, j'ai dans ma liste, pour ma chronique, est-ce que ça a bien vieilli, un jour, je vous fais Léon, de toute façon. Donc,
bon, Léon et Nikita sont les seuls qu'on peut sauver.
Alerte, oui, ça a bien vieilli.
C'est les seuls qu'on peut sauver de Besson. Mais alors, franchement, le cinquième élément... C'est déjà que je suis pas fan de Star Wars, mais là
et
c'est
ben,
du noter.
Et ben moi, je sauverais même Taxi. Hein,
et ben Val noter.
J'ai pas peur. Et ben le rendez-vous est pris à Tel Zeda pour du coup une prochaine chronique sur Léon et puis pourquoi pas tant qu'on y est, tant qu'on soyons fous un podcast spécial Luc Besson, pourquoi pas. On va continuer avec du coup Dr Mad Geek. On va changer encore d'univers et tu vas nous parler d'un film pour le coup bien terre à terre, je crois.
Hyper terre à terre, c'est pas du tout mon style à la base. Donc j'ai vu Banlieusard. C'est une production Netflix, encore.
Ok.
Réalisation Kerry James, plutôt connu pour le. C'est un rappeur, plutôt rappeur politique. Et co-réalisé par Leila Si, qui elle est plutôt étiquetée réalisatrice activiste. Mais en fait, ils font la fine équipe depuis un moment. Elle fait tous ses clips depuis un moment, quoi. C'est une ex de Joe Star aussi, accessoirement. Mais cela ne nous regarde pas. Donc l'histoire, on est dans les banlieues, voilà. Donc c'est grosse claque dans le cinéma français, là. Donc l'histoire, c'est trois frangins. En gros, on suit le destin de trois frangins qui vivent dans la cité. L'aîné il est déjà parti sur une mauvaise piste, idylle, il vit que de larcin, etc. Il a fait un peu de tôle et compagnie. Le cadet, lui, il réussit très bien à l'école et il prépare, et c'est le sujet du début du film, il prépare un concours d'éloquence, la finale du concours d'éloquence. Donc dans le domaine plutôt du droit, des avocats et tout ça. Et le petit dernier qui lui cherche à qui il veut ressembler en fait entre les deux, qui va le plus l'influencer, etc. Mais on va donc surtout suivre le destin parallèle du cadet, donc, qui excelle bien à l'école, et d'une fille plutôt bourgeoise, qui a plutôt une belle vie dans un autre quartier de Paris, et qui vont se retrouver en finale de ce concours d'éloquence. Donc ils se connaissent, ils se suivent, ils sont étudiants ensemble. Et le fil rouge du film, c'est la dichotomie entre ces deux personnages. Et le sujet, évidemment, du concours d'éloquence, c'est l'État est-il, oui ou non, responsable de la situation précaire des cités. Et là, on sent le côté politique du rappeur qui a écrit tout ça. Le casting est génial. Moi, j'adore découvrir des films où tu connais pas une tronche. En fait, ils sont tous exceptionnels. Donc, il y a un moment, tu te demandes pourquoi on paye 20 millions de dollars des mecs si le premier inconnu qui passe est excellent dans son rôle. Et puis, le sujet, parce que il faut bien se dire que les films comme ça commencent à arriver. Et c'est sans doute pas pour rien, quoi.
Tous les inconnus sont pas excellents. Hein.
Évidemment.
Au cinéma.
J'ai adoré aussi la narration, donc avec ce concours en fil rouge, où donc le film passe de la réalité des cités à cette dimension un petit peu qui est racontée vraiment avec maestria, je trouve, parce que à un moment se mêle au fil de la série une sorte d'âme de rappeur militant chez le cadet et son concours d'éloquence et les textes qu'il doit déclamer pendant son concours d'éloquence, et il va finir par rapper en fait son concours d'éloquence.
Tu spoil là.
Tout ça dans un truc un peu crescendo. Non, parce que c'est pas l'action du film. Ça, c'est que le fil rouge qui ne révèle en rien en fait l'action du film.
Et je crois que tu m'as donné envie de le voir en disant ça justement.
C'est en ça que tu prends une claque en fait à la sortie du truc, parce que le truc se finit bien en apothéose sur ce concours d'éloquence et puis les trois petites minutes derrière, etc. Mais ce n'est pas le sujet du film. Et alors, ça laisse un goût un petit peu mitigé à la fin, clairement, il suffit de regarder autour de cette table.
Nous ne sommes pas des représentants de la diversité.
Nous ne sommes pas des représentants de la diversité.
Et particulièrement.
Et donc, si tu prends un peu de recul sur le film, forcément, t'es mitigé, pas parce que c'est un peu oui, un peu non, mais parce que tu sais pas. En fait, tu sais pas dire si c'est que du gros cliché ou si vraiment ça se passe comme ça. Donc, tu as des gens qui vont dire « Ouais, moi, j'ai vécu 10 ans à la cité, ça se passe vraiment comme ça. » Tu as des gens qui bossent en Seine-Saint-Denis qui vont dire « Non, mais si, c'est comme ça tous les jours. » Puis, tu as des gens qui n'ont jamais foutu un pied là-bas et qui vont dire « Attends, les mecs, ils balancent pas des frigos par les fenêtres. » Si. Et donc, il y en a qui disent que c'est bâclé. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt encourageant, quoi. Kerry James qui se met à la caméra sur un truc comme ça, enfin, que des mecs se disent « On va prendre la caméra parce que c'est ce que les gens veulent voir », et avant un film comme ça serait resté complètement confidentiel sans la mise en avant d'une plateforme comme Netflix. Donc plusieurs fois j'ai eu les poils, c'est assez cru, c'est la vie des cités, il y a des clichés, mais visiblement, vu le succès du film, ça a l'air fondé. Et donc j'invite tout le monde à aller le voir, et en ce moment vous pouvez aussi dans ce registre aller voir Les Misérables, qui rencontre un très beau succès aussi en France, et je trouvais ça hyper intéressant là, de commencer à se rendre compte que, attention, les films comme ça arrivent à l'écran, et il y a déjà du monde dans la rue, il va y avoir du monde dans les cinémas, tu vois, clairement, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans la société, et à ce titre-là, le cinéma, ça a toujours été un témoin, en fait, de son époque, et donc rien que pour ça, je pense que c'est un film qu'il faut voir maintenant, pour pas se dire après, ah oui, j'ai pas été prévenu, quoi.
C'est un commentaire intéressant de se dire, c'est aussi un reflet de la société actuelle, et il faut aussi le voir parce que...
Ça témoigne de quelque chose,
ouais,
quoi.
Ça témoigne de quelque chose.
Il n'y a aucune notion autobiographique dans ce film.
Certes, Kerry James a fait un peu de cité, mais il est parti assez rapidement, finalement, de ce que j'ai compris, hein. Mais bon, il milite depuis longtemps, en fait, là-dessus. Donc, il doit quand même connaître ce monde. Il a dû le partager à un moment ou à un autre. Après, c'est vachement plus facile à partager quand tu palpes un peu que quand tu le subis, quoi.
Ouais. Puis ça fait plaisir de voir que Netflix commence aussi à produire des œuvres françaises un petit peu différentes des premières productions qu'ils ont pu faire en série, notamment chez nous, quoi. Mmh. Et non, je ne parlerai pas de ce à quoi vous pensez. quelqu'un d'autre autour de la table l'a vu, peut-être, Banlieusard ?
J'ai croisé le truc, mais il fallait que je le regarde. J'avais prévu de voir Les Misérables, ça c'est sûr.
Qui est au cinéma, là, pour le coup. Hein.
Ouais. Qui fait une belle tournée. Hein.
Après, ouais, je savais pas que c'était réalisé par Kerry James. J'ai un petit problème avec Kerry James, mais il a tendance à m'agacer parce que je le trouve très donneur de leçons. En dehors de son film, hein, donc ça, peut-être que le film n'a rien à voir et que voilà, c'est juste un a priori sur Kerry James. Je pense que oui, c'est quand même aussi à voir, quoi.
Si on creuse un peu dans le truc, je pense que moi, c'est des choses que j'ai pas vues, mais on peut facilement s'offusquer du côté un peu. Hégémonique du rôle de Kerry James dans le truc, parce qu'il a tout fait, quoi. Il a écrit, il prend la caméra, il chante, il a écrit les textes de chansons qui passent dans le truc, il dirige les acteurs, machin. Et donc, je trouverais normal qu'à un moment quelqu'un dise, bah, quand tu veux tout faire, t'arrives pas à tout faire, quoi. Mais encore une fois, c'est encourageant, c'est un premier jet, et je pense que ça peut devenir quelque chose d'intéressant.
Comparativement à ce qui se faisait sur les sujets, les thématiques banlieue, justement, mais on parlait des années 90, la haine ou.
Mais si t'es pas craqué.
Menace ou Society.
De l'autre côté, de l'océan.
C'est comment ?
Déjà, ça montre une évolution. C'est-à-dire que, à la fois, ça montre une évolution et ça montre qu'il n'y en a pas. Donc, c'est hyper intéressant parce que si tu prends les deux constats, enfin, ces deux polaroïdes, ces deux instantanés à des moments T, rien n'a changé, en fait. Et tout le problème est là. C'est-à-dire qu'à un moment, on t'alerte il y a 20 ans sur tel truc, maintenant, on te dit c'est toujours comme ça. Mais là, en plus, on te dit avant, il y avait encore les flics qui rentraient dedans, maintenant, ils n'y vont plus, quoi. Donc, c'est quoi la prochaine étape ? Donc, tu es sur un thermomètre, quoi, du truc qui...
Ok, très bien. Bah, merci pour, cette recommandation, ce qui sort un peu des sentiers battus aussi de ce qu'on a pu traiter aujourd'hui. Je vais conclure très rapidement, parce qu'on est en train gentiment d'exposer les temps sur cet épisode de rentrée, avec un film d'animation Netflix, là aussi, bah, pour être original, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui s'appelle « Close ». Qui est un film, comme son nom l'indique, plutôt à regarder à la période de Noël, mais on n'en est pas très loin. Non, là on va parler de Klaus, le Santa Klaus, ça a été mon coup de cœur de fin d'année, de manière extrêmement subjective. Je lui ai mis un 10 sur le site parce que. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été autant charmé par une DA. Je trouve que vraiment le style est vraiment incroyable. Alors la personne qui est derrière tout ça est surtout connue pour avoir, réalisé l'univers visuel de Moi, Moche et Méchant. Donc en soi, comme ça, sur le papier, on peut se dire bon, ouais, on est adepte ou pas de la DA de Moi, Moche et Méchant, mais. Mais il a aussi été, comme beaucoup d'autres animateurs chez Disney, il a notamment bossé sur le Tarzan et sur La Planète au Trésor, qui sont, je trouve, deux films avec une DA qui est assez particulière dans l'univers Disney, et que moi j'avais bien apprécié. Et Klaus, du coup, a vraiment un... En fait, c'est du coup déjà très dessiné, même si elle a... clairement c'est de la 3D, je pense, derrière, sous le capot, entre guillemets. Et c'est vrai que s'attaquer à l'univers du film de Noël, encore une fois, sans rentrer dans le détail de l'histoire, mais de cette histoire-là en particulier, on peut se dire, c'est vu et revu, et ils arrivent en effet à proposer un truc qui semble assez frais. Ouais.
En allez plus, voir. Ils étaient attendus, je pense, Netflix.
Ils l'ont pas trop annoncé, quand même. Il est sorti comme ça.
Hein. Moi, c'est sorti d'un coup, d'un seul.
Ouais, mais c'est la première fois que Netflix produisait un dessin animé film. Pas une série, quoi.
Un film d'animation.
Un film d'animation, merci.
Peut-être, ils avaient produit des séries animées, mais effectivement, en et film.
Super, dont.
Chasseurs de dragons.
C'est eux qui ont fait Love, Hate and Robots.
Love, Death and Robots.
Death and Robots.
Ça, effectivement, ouais.
Donc ils l'ont produit
dans tout
cas.
C'est pas pareil,
on est d'accord.
Ah, mais dans l'animation.
On est d'accord pour dire que, quand même, même si on éprouve tous ce truc devant Netflix à un moment. De passer 40 minutes à faire tout le catalogue et à te dire que t'as rien à trouver, ils ont quand même le meilleur catalogue actuellement en ligne.
Ah bah en VOD, il y a ces 100...
Mais là, on est en sujet.
100 Gounodeur.
Oui, enfin, on a quand même cité 3 ou 4 fois Netflix.
J'avais dit que j'en parlerais pas, mais sur Kifilm maintenant, sur les fiches de films, commencent à apparaître s'ils sont dispo sur Netflix et sur Amazon. Mmh.
Ah, bien.
Et ça demande un travail de fond assez conséquent. Et quand on le fait à la main, c'est impressionnant la différence de catalogue, quoi. C'est... Il y a quasiment tout sur Netflix, ou il y a eu, parce que par contre, ça te remonte qu'il y a sur Netflix, alors qu'il ne le propose plus forcément à l'heure actuelle. Mais soit il y a ou il y a eu sur Netflix, alors que sur Amazon, c'est un film sur 100 qui est présent.
Est-ce que vous avez vu Undone sur Amazon?
Non.
Et ils en parlent en ce moment, là, non?
C'est, ouais, c'est pareil, une série, mais c'est en... Tu sais, tu te souviens de ce film? C'est en cel-shading, je crois, qui... Tu sais, il tourne, et puis il redessine par-dessus...
Ah oui.
Oui. Avec Voyage dans le temps. Donc
tu regardes ça et puis nous en parles la prochaine fois.
Ouais, absolument.
Le rendez-vous est pris. Du coup, effectivement, Klaus, pour clore du coup, cet épisode consacré au film, on vous invite à nous rejoindre sur le site Kifilm, à commenter ce que vous avez pu voir et puis à rebondir sur nos propres avis. Et puis, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Qui sera du coup consacré cette fois aux séries.
Tout à fait.
Messieurs, je vous dis à bientôt.
Salut.
Salut.
Salut.